Bonjour à tous, rebonjour. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que...
Caroline et moi, on ne s'est pas parlé avant que tu ne prépares. Tu ne savais pas de quoi j'allais parler. Mais le Saint-Esprit fait bien son travail. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, tu as abordé des choses que l'on va voir maintenant. Et ce que je souhaite, c'est de ne pas être un frein à ce que le Saint-Esprit a envie de nous dire à tous. Et je vous invite à prier. Seigneur, merci pour l'opportunité d'entendre parler de toi encore une fois. Merci Seigneur de nous aider à avoir les oreilles ouvertes, grandes ouvertes, et en ce qui me concerne, à avoir une bouche qui parle simplement en ton nom. À ne pas être un filtre, à ne pas être quelqu'un qui va déformer ce que tu veux dire. Que ton esprit soit à l'œuvre en chacun d'entre nous maintenant. Amen. Avant de commencer la prédication, je voudrais nous inviter tous à penser à des proches, des amis non chrétiens. On en connaît certainement, on en côtoie, ou des collègues, des gens, peut-être que l'on aime, peut-être des gens qu'on n'aime pas, parce qu'on peut aussi avoir des proches qui sont difficilement supportables, et oui, c'est possible. Peut-être même des proches qui nous ont blessés, fait vraiment beaucoup de mal, et puis il y a des gens qu'on aime tout simplement parce que c'est chouette, mais qui ne sont pas chrétiens. Qu'est-ce que l'on souhaite pour eux? Qu'est-ce que vous souhaitez pour eux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'on pourrait leur souhaiter? Ça, certainement la vie éternelle, de rencontrer le Seigneur, évidemment. De vivre aussi d'autres choses avec ces gens-là, pour ceux qui ont été désagréables, on aimerait qu'ils soient transformés, qu'ils changent, qu'ils parlent différemment, qu'ils demandent pardon pour des choses. Et seul le Saint-Esprit peut faire ça, peut révéler Christ, et seul Christ peut transformer ces vies-là. Et on aimerait qu'ils le rencontrent. Et on aimerait qu'ils passent l'éternité avec Dieu et avec nous. Et c'est aussi, c'est ce que Paul souhaite. On l'a vu avec Alexis, avec Florian, dans les premières études qui ont été faites de Philippiens, jusque-là, c'est que le souhait de Paul et la joie de Paul, c'est que Christ soit annoncé. C'est que Christ soit annoncé et que sa grandeur soit reconnue. Et dans le texte que l'on va voir maintenant, alors c'est mieux si je prends le texte, eh bien c'est aussi que le souhait de Paul et la joie de Paul, c'est que Christ soit annoncé. Alors on va lire en Philippiens 2, cette fois-ci versets 12 à 18. « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut, avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque le jour de Christ viendra, vous serez mon titre de gloire. Pardon. Je n'aurai pas couru pour rien et ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et j'en me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et vous avec moi. » Les réjouissances de Paul sont bien que Christ soit annoncé à nouveau. Et entre le premier souhait de Paul et le deuxième souhait de Paul, c'est-à-dire que Christ soit annoncé et que Christ soit annoncé, au milieu, eh bien, il y a nous. Il y a nous, et quelle mission avons-nous dans tout cela? Quand je me suis converti, dans la semaine qui a suivi, je dis au Seigneur, mais pourquoi tu me gardes encore sur cette terre? Parce que tous les jours, c'est un fiasco, quoi. On ne passe pas du jour au lendemain d'une vie d'un certain type à une vie d'un certain autre type, sauf miracle, et dans certains cas, il y a eu des miracles de ma vie, mais pas partout. Et je dis au Seigneur, mais regarde, encore aujourd'hui, j'ai raté, encore je t'ai déshonoré aujourd'hui. Pourquoi tu me gardes là pour continuer à recevoir, quelque part, des choses pas terribles de ma part? Et la réponse a été, tu as une mission, bonhomme. Tu vas aller faire comme ceux qui t'ont parlé jusque maintenant. Tu vas aller annoncer que je les aime et que je souhaite qu'ils se réconcilient avec moi. Notre mission sur Terre, entre autres, pas que, mais entre autres, c'est d'annoncer Christ. c'est d'annoncer le désir de Dieu de réconcilier ses créatures avec lui-même. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'en plus, tu vas leur annoncer, et en plus tu vas leur donner envie. Tu vas leur donner envie qu'ils se réconcilient avec toi. Alors ça ne change rien à la responsabilité de la personne individuelle de se positionner, d'accepter ou de refuser Christ. Mais on peut être un frein à ça. On peut être un frein à ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens. Et ce qu'il nous dit, c'est vous n'allez pas être un frein, vous allez être des catalyseurs, vous allez être des vecteurs de ce que j'ai envie d'apporter aux autres. Vous allez leur donner envie. Devenez des chrétiens contagieux. Voilà notre mission. Annoncer et donner envie de se réconcilier. C'est ce que, dans le passage qu'on vient de lire, la Bible a dit, être des flambeaux, brûler comme des flambeaux, briller comme des flambeaux dans le monde. Alors ce serait bien qu'on ait l'image quand même. Ça ne marchera pas ? Bon, on va avancer. Alors ce que vous ne verrez pas, c'est que j'ai cherché des images de flambeaux. Et j'ai trouvé une image de lance-flamme. Peut-être vous la verrez tout à l'heure. Je me suis trompé d'image ? Ou je me suis trompé de comportement ? Et c'est possible aussi. Et moi, j'ai été lance-flamme. C'est pour ça que je me permets d'en parler. J'étais lance-flamme avant ma conversion et j'étais lance-flamme après ma conversion. Et on n'est pas invité à rester là-dessus. Et la Bible aborde nos faiblesses. Et si on parle aujourd'hui, si Paul nous dit, les gars, ne soyez pas des lance-flammes, mais soyez des flambeaux, c'est parce qu'on est capable de l'être. La Bible aborde nos faiblesses, il faut qu'on les aborde nous aussi. Mais elle nous invite aussi à cheminer vers quelque chose d'autre. Et ce que vous ne voyez pas non plus, c'est une autre image où il y a une lampe torche, une torche dans une grotte. Et cette lampe, elle brille dans le noir. Et elle éclaire un peu, pas tout, mais elle éclaire et les gens regardent ce qui est éclairé. Notre job, c'est d'être non pas ce lance-flamme, mais ce flambeau, cette lampe qui va permettre aux gens de regarder vers celui qui donne la vie. Vers celui qui donne la vie. Alors, avant de développer plus en détail, je vais encadrer mon message par deux choses. D'un côté, la conclusion, et d'un autre côté, la conclusion. Comme ça, vous allez la retenir. En trois choses. C'est des relations transformées par Christ, entre nous, des relations d'Église transformées par Christ, qui amènent un renforcement de l'unité de l'Église. Et quand il y a cette unité, quand elle est forte, alors il y a un témoignage puissant. Alors Christ peut être annoncé. Et on pourrait le dire dans l'autre sens. S'il n'y a pas d'unité, parce qu'on a des relations interpersonnelles qui sont difficiles, alors le témoignage va être rendu difficile. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, comment témoigner et quand on témoigne. Quand on est unis, on va apporter quelque chose. Des relations transformées, l'unité de l'Église renforcée, Christ annoncé. Et ça, je vais le développer maintenant. Donc la Bible aborde nos faiblesses et nous invite à cheminer. Nos faiblesses, en quoi nous met-elle en garde ? Elle va nous mettre en garde donc contre des difficultés collectives qui sont mentionnées par Paul dans la lettre aux Philippiens. Des difficultés collectives qui sont liées à des difficultés individuelles. Parce qu'évidemment, le collectif, il est aussi composé d'individus. Et pour que le collectif soit en bonne santé, il vaut mieux que ceux qui les composent soient aussi en bonne santé. Donc on va aborder ces difficultés collectives, voir comment elles ont leur racine dans les difficultés individuelles. Mais aussi, en quoi la Bible, comment elle nous encourage à devenir flambeaux. Eh bien, elle nous invite à devenir flambeaux par d'abord des transformations individuelles qui vont aussi ensuite avoir leurs répercussions en des transformations collectives. C'est juste le pendant, dans l'autre sens. Alors, les difficultés collectives que Paul mentionne, il parle des divisions qu'il peut y avoir entre chrétiens. Et toi, tu as déjà abordé, dans les semaines passées aussi, ce thème-là, notamment la dernière fois. Mais juste avant, pour qu'on soit clair, l'antidote à la division, je ne veux pas qu'on se trompe sur les termes, l'antidote, ce n'est pas l'uniformité. La division, ce n'est pas la diversité. Et Caroline nous en a parlé tout à l'heure. Dieu nous a créés avec plein de diversité, avec plein de différences, et c'est une réelle opportunité. Là où il y a la division, c'est quand on n'arrive pas à gérer ça et que ça devient conflictuel. Ça devient, on ne peut plus se supporter, on devient des pierres rugueuses les unes contre les autres. Donc non, l'uniformité, ce n'est pas ça. Et la diversité, au contraire, elle est invitée à être vécue dans l'unité. Donc je laisse de côté ça, je ferme la parenthèse. Donc, on va parler donc des divisions, de ceux qui amènent à à l'impossibilité à vivre ensemble, entre guillemets, quoi, à travailler ensemble. Et dans le texte que l'on a vu à l'instant, les termes que Paul emploie, c'est se plaindre les uns des autres. C'est discuter, murmurer. Je reprends le texte. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être, etc. Ce qu'il mentionne là, ce sont des problèmes qu'il y avait aussi à l'église de Philippe. Et le terme murmurer ou discuter renvoie à la révolte des Hébreux dans l'Ancien Testament. Alors, ouais, vous ne le voyez pas, mais vous pourrez retrouver ça dans Exode 16, dans Nombre 11 et aussi dans 1 Corinthiens 10:10. Ça renvoie à ça. Et à l'époque, ce que Dieu dénonçait, c'était des relations interpersonnelles entre les gens qui offensaient Dieu. Donc le problème qui est mentionné là, auquel Paul fait allusion, ce sont des difficultés interpersonnelles, des relations difficiles entre les gens, et qui vont miner le témoignage de l'Église. Voilà le collectif. Mais le collectif, il a sa source dans l'individuel, comme je le disais. Et là, donc, Alexis, tu nous en as parlé la semaine dernière, le problème, c'était l'ego. Le texte de la semaine dernière parlait de rivalité ou de recherche de vaine gloire. Paul rajoute quelque chose ici aujourd'hui. Il rajoute que le fait de ne pas voir la figure d'autorité nous rend plus indulgents envers nous-mêmes. Ça, c'est le verset 12. Il leur dit, vous avez toujours obéi, eh bien, continuez. D'autant plus que je ne suis pas là. C'est ce que, moi, j'appelle un peu un comportement en alternance entre la peur du gendarme et le rebelle. On voit le radar, on voit l'équipier au bord de la route, hop, on freine. Et puis, dès qu'ils sont passés, on réaccélère. Et ça, c'est un comportement, non pas de responsable, d'adulte responsable qui dit « je vais choisir volontairement ma limitation de vitesse parce que derrière, je sais qu'il y a des morts, des risques », mais plutôt de l'enfant immature. Je suis un peu sec, un peu sévère dans le vocabulaire, mais il n'empêche que c'est ça. Et on peut avoir, et moi je l'ai eu, le même comportement dans les relations, au sein d'une église, enfin dans le sens entre frères et sœurs. On va se permettre de dire des choses, ou dans l'église, ou dans la famille, ou avec des collègues. Et si Jésus rentrait dans la pièce, oh mince, c'était pour rire, quoi. C'est pas ça que je voulais dire. Mais si, je l'ai dit quand même. On peut être comme ça. Donc le fait de ne pas voir va un peu étouffer notre conscience. C'est pas si grave. Mais si, c'est... Jésus n'est pas physiquement là, je ne croise pas son regard, mais Jésus est là quand même. Et c'est là où il ne faut pas qu'on l'oublie, quoi. Et c'est pour ça que Paul nous encourage, soyez d'autant plus obéissants que je ne suis pas là. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Alors là, c'est vraiment dommage, parce que vous ne voyez pas le schéma. Les difficultés individuelles, parce qu'on ne parle que de symptômes. Mais le but, ce n'est pas de traiter les symptômes, il faut aller traiter les causes, donc il faut aller chercher les causes. Donc je vais rentrer dans des symptômes un peu plus fins pour ensuite arriver aux causes. Première chose que je mentionne, et qui va nous amener à des comportements comme ça, et ce n'est pas exhaustif, et c'est je vise personne, je prends juste le texte. Je prends juste le texte. La première chose, c'est le manque d'assurance d'être aimé, et en l'occurrence de Dieu. Et ce manque d'assurance d'être aimé, et notamment de Dieu, va susciter en moi un sentiment d'insécurité. Et parce que je me sens en insécurité, je vais avoir peur de l'inconnu. Et notamment l'inconnu des relations. Quand je parle à quelqu'un et que je vais aborder des choses, tant qu'on parle de la pluie et du beau temps, ça va. Mais si on veut aller vraiment dans des relations, on va aborder forcément des sujets qui vont peut-être fâcher. Et je ne sais pas comment l'autre va réagir. Et ça se trouve, je vais perdre pied. Peut-être qu'il va avoir raison, peut-être que je vais avoir tort, peut-être que je ne vais pas savoir comment m'en sortir. Et cette peur de l'inconnu va susciter en moi le besoin de contrôler la situation, de contrôler la discussion, de contrôler la personne. Deuxième chose, le fait de ne pas se sentir assez aimé va susciter aussi la peur de ne pas exister. Et ça, tu en as très bien parlé la semaine dernière. J'ai peur de ne pas exister, donc j'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin de faire ou de dire des choses pour qu'on me reconnaisse, pour qu'on prenne, que je prenne ma place. Par la violence potentiellement, verbale. Et donc tout ça, en général, ça se traduit par des paroles. Et des paroles qui vont, j'ai mis des décibels, qui vont,
qui ne vont pas être propices à des bonnes relations interpersonnelles. OK ? Et tout ça, c'est encore que des symptômes. Parce qu'il faut aller chercher plus à l'origine. Et là, on va revenir dans Genèse. Dieu a-t-il vraiment dit ? Est-ce que Dieu a vraiment dit que si on mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on mourrait ? Et qu'est-ce que fait Adam et Ève à cette proposition de Satan ? Le dire, putain, je fais confiance à Dieu, il est la vérité, je ferme la porte à cette éventualité-là, au contraire, il l'ouvre. Mais peut-être bien, peut-être que Dieu ne nous a pas tout dit, peut-être qu'il n'est pas si aimant qu'il ne le prétend. Le doute. Et on vient tous au monde avec ça. Hein. C'est pour ça que moi je parle pour moi aussi. Dieu a-t-il vraiment dit ? Mais non, il n'a pas dit ça. Et en plus, si vous en prenez, vous serez comme des dieux. Alors ça, c'est le top. Parce que c'est exactement ce que je voulais. Satan vient nourrir le désir d'être toujours plus de l'homme et de la femme. C'est l'orgueil. Le pendant du doute, ou son compagnon, c'est l'orgueil, malheureusement. Et donc, on n'est jamais satisfait. On a toujours du mal à accepter les limites que Dieu nous place, nous donne. Et je crois qu'il est créateur et nous sommes créatures. Mais aussi les limites physiques, les limites intellectuelles, temporelles, qu'on ne veut pas ça. Et la société nous encourage à montrer qu'on n'est justement pas limité. Mais ça reste mensonger. À cause de ça, ça va nous amener, bien sûr, la séparation d'avec Dieu, c'est la chute, c'est le péché, mais ça va nous amener à douter de Dieu, à nous sentir dans ce manque d'amour, manque d'assurance d'être aimé, avec toutes les conséquences qu'on a vues avant. Ça, c'est pour ce qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ce qui va suivre, je vous l'ai déjà donné, mais je vous le redonne, c'est cet acronyme, TRAHI. Ça, c'est ce qui se passe dans moi à cause de ce qui s'est passé à l'extérieur. À chaque fois que vous avez été trahi, chaque fois que vous êtes senti rejeté, mis à l'écart du groupe, chaque fois que vous êtes senti abandonné, quelqu'un aurait dû me donner un coup de main et je me suis senti tout seul. Je me suis retrouvé tout seul dans mon problème. Chaque fois que vous êtes senti abandonné, chaque fois que vous avez été humilié, ou chaque fois que vous avez perçu une injustice, vrai ou pas vrai, mais chaque fois que vous avez perçu une injustice, à chaque fois, ça a détruit quelque chose en vous, dans l'image que vous avez de vous-même, et que vous avez des autres, et que vous avez de Dieu. À chaque fois, ça altère, et ça va nous rendre incapables, ou rendre plus difficiles les relations avec les autres. Alors, c'est sur tout ça qu'il va falloir travailler pour pouvoir commencer un changement. Et bien sûr, ce changement, il ne va pas se faire tout seul. Il va se faire avec Dieu, pour qu'il soit durable, pour qu'il soit possible. Et peut-être que ça durera toute la vie. Parce qu'on ne sait pas à quel point les violences ont pu être grandes ici. Tout le monde n'a pas les mêmes cicatrices. Les transformations individuelles, pour passer des difficultés aux transformations, et pour commencer... Eh bien, il faut avoir revisité nos croyances qui ont été construites à partir de tout ce qu'on a vu avant. Les revisiter à la lumière de ce que Jésus dit être vrai. Et Paul, c'est ce qu'il nous dit en Philippiens 1, quand il nous disait qu'il prie que notre amour gagne de plus en plus en connaissance. En connaissance de quoi ? Eh bien, en connaissance de ce que Dieu dit sur nous et sur les autres. Pas uniquement cela, mais notamment. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester au stade d'enfant spirituel. Il faut se nourrir et il faut commencer à mieux comprendre toutes les transformations, toute l'identité que nous avons en Christ, tout ce que Dieu dit être vrai, et sur moi, et sur l'autre. Et Paul ne s'arrête pas là dans sa prière. Il dit aussi qu'il veut qu'on grandisse en parfait discernement. Pourquoi ? Et discerner quoi ? Eh bien, discerner entre le vrai et du faux. Dans le texte, il parle, et il va parler après, on le verra les prochaines fois avec Philippiens 3, il va parler des faux docteurs. Il est important que chacun d'entre nous puisse discerner si le gars qui parle là vous donne quelque chose qui est biblique, qui est vrai ou qui est faux. Parce que si on entretient aussi des faux enseignements par rapport à Christ, qu'allons-nous transmettre, qu'allons-nous refléter à celui qui n'est pas chrétien ? Ce n'est pas Christ qu'on va apporter. Et c'est pour ça que je vous invite à aller chercher dans vos Bibles si tout ce que je vous raconte est vrai ou faux. Et s'il y a des erreurs, et c'est possible, il faut le dire pour qu'on change, pour qu'on rétablisse le message. Donc discerner par rapport au vrai et au faux, mais aussi comprendre ce qui est important et comprendre ce qui l'est moins, histoire qu'on ne se déchire pas sur les choses qui sont secondaires. Avoir du discernement en toutes ces choses-là. Et puis Paul prie pour ça. C'est sa prière. Je prie que le Saint-Esprit fasse ce travail-là en nous. Et si Paul prie, alors moi aussi je vais prier. Parce que si je ne prie pas, si je ne suis pas dans la démarche de dire à Dieu, Seigneur, j'ai du mal, éclaire dans ma vie tous les points où j'ai douté de toi, tous les endroits où je préfère ne pas te faire confiance, mais me faire confiance tout seul. Si je ne demande pas au Seigneur de me faire revisiter ma vie sur tout ce qui a pu être T-R-A-H-I, alors je ne vais pas avancer. Mais prions, et le Seigneur révélera les choses petit à petit, en son temps, au moment où nous sommes aussi capables de les gérer. Et peut-être qu'il ne fera pas qu'on les gère tout seul. Peut-être qu'on aura besoin d'aide. Et si vous avez besoin d'aide, allez voir le conseil qui saura vous écouter, qui saura peut-être vous envoyer vers quelqu'un qui a peut-être fait de la relation d'aide. Et si la personne en question qui a fait la relation d'aide ne sait pas non plus, vous enverra vers un spécialiste s'il le faut. Ça, ce n'est pas un problème, c'est au contraire une démarche tout à fait saine. Mais elle commence par un cheminement avec Dieu, de vouloir se mettre à sa lumière. Revisiter donc nos croyances à la lumière de ce que Jésus dit. Mais ça ne suffit pas. Là, on vient de parler du passé. On vient de parler du passé. Comment traiter le passé? Et le traitement du passé, comme je l'ai dit, peut durer jusqu'à notre mort. Ça va être long. Mais il faut aussi traiter le présent, toutes les conséquences que tout ce passé a à donner maintenant. Et pour ça, il faut qu'on ravive notre conscience. En parlant de flambeau, lumière, je suis allé voir aussi lampe. Je suis allé voir Matthieu et Luc. Quand ils nous disent, voilà, vous êtes la lumière du monde, etc. Et qu'une lumière, ça ne se met pas sous le boisseau, mais au contraire, elle est là pour éclairer la ville, etc. etc. Je suis allé regarder ces textes-là. Et les textes disent, rappellent la vocation du chrétien qui est d'éclairer les autres pour qu'ils connaissent Dieu. Ça, on l'a déjà vu. Mais ils disent aussi d'autres choses. Ils parlent aussi de l'œil qui est la lampe pour le corps. Et que cet œil, il peut apporter la lumière ou il peut apporter les ténèbres dans le corps. Et là, on aborde la question... Quand je parle de conscience, eh bien de nos pensées. Qu'est-ce que je vais faire de mon œil? Qu'est-ce que je vais faire de mes pensées? Est-ce que je vais les orienter de telle sorte qu'elles apportent la lumière à l'intérieur ou au contraire qu'elles apportent des ténèbres à l'intérieur? Parce que je vais refléter de quoi à l'extérieur? De ce qui est dedans. De ce qui est dedans. Donc selon les pensées que j'entretiens, je vais être lumière, noire ou lumière au contraire brillante. Et Philippiens 4, cette fois-ci, nous en reparlerons encore un peu plus tard, que tout ce qui est vertueux, digne de louange, d'approbation, nanana, soit l'objet de vos pensées, etc. Donc c'est très cohérent. Donc, raviver sa conscience par rapport à ce que l'on a dans la tête, là. Et Paul, on l'a vu tout à l'heure, voulait qu'on grandisse en discernement, en parfait discernement. D'autres traductions disent « en vraie sensibilité ». Et là, je trouve que c'est important que l'on ravive notre sensibilité également. Je vais donner deux exemples d'applications. Bien sûr, il y en a d'autres. Et en partant juste de la même image. J'ai très peu d'odorat. C'est-à-dire qu'il y a plein de senteurs qui me passent complètement à côté. Au printemps, toutes les fleurs et tout ça, je ne sens rien du tout. Et je me prive de plein de bonnes choses. Mais quand il y a une fuite de gaz, au bout de combien de temps je vais prendre conscience qu'il y a du gaz? Au niveau des relations, si je fais le parallèle, si je n'exerce pas ma sensibilité, eh bien je ne vais pas découvrir, je ne vais pas voir les beautés que Christ a mis chez l'autre. Le passage de l'autre fois nous disait... Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et regardez à leur qualité plutôt qu'aux vôtres. Ça, c'est être sensible à l'autre. Mais si j'étouffe ma sensibilité, eh bien, je vais voir chez l'autre que ce qui ne me plaît pas, parce que ça saute aux yeux. Mais aller chercher les belles choses que Christ a mises en lui, les valoriser, l'encourager à les mettre en œuvre pour la collectivité, rendre gloire à Dieu pour les belles choses que Dieu a mises en lui, ça, je ne vais pas le faire. Il est important... pour créer et entretenir des relations interpersonnelles qui soient bonnes, aussi de voir les gens tels qu'ils sont complètement, et y compris avec ces belles choses. Il faut se rendre sensible aux belles choses que Christ met chez vous. Et de la même façon que le poulet peut griller sans que je me rende compte, ou que le gaz puisse être là sans que je me rende compte, si je ne suis pas sensible, je ne vais pas non plus forcément voir la souffrance chez l'autre. Voir aussi que l'autre personne peut avoir des besoins. Et puisqu'elle est en souffrance et que je ne me rends pas compte, je vais être rentrer dedans. Ou je vais faire comme si j'étais indifférent à l'autre. Et pour cause, je suis indifférent puisque je ne suis pas sensible. Donc ce n'est pas ça qui va être propice non plus à la bonne relation. Donc on a intérêt tout là aussi à augmenter notre sensibilité pour bien être disponible pour l'autre comme il convient. Ça, c'est être sensible pour percevoir la beauté chez l'autre et aussi son besoin. La deuxième application, c'est par rapport à mon comportement. Est-ce que je suis sensible aux répercussions que mes paroles, que mon comportement a chez l'autre ? Comme je n'ai pas beaucoup d'odorat, si je mets du parfum, il ne se passe rien. Donc pour que j'ai l'impression d'avoir mis du parfum, il faut que j'en mette. Parce que tant que je ne sens rien, je ne sens rien, évidemment. Et le volume me dit, t'en as trop mis. Hein ? Ou comme hier, les petits pois, tu vas dire que c'est des lentilles. Bah ouais, tout est mélangé. Je t'avais dit que je la sortirais. Mais oui. Et finalement, en étant de bonne foi, en voulant faire bien, je vais finir par importuner les autres. Et en plus, je m'intoxique sans m'en rendre compte. Je mets ça dans le domaine relationnel. On peut être de bonne foi et être sûr de faire ce qu'il faut pour Jésus. Le chrétien, il dit la vérité, parce que la vérité vous rendra libre, parce que, etc. Donc moi, je suis cash. C'est biblique d'être cash. Tac. Seulement, ce n'est pas biblique d'être cash. C'est bien plus subtil que ça d'être dans la vérité. Et je peux faire du mal à l'autre, parce que je suis cash. Et donc, en étant de bonne foi, parce que je ne suis pas sensible à toutes les répercussions de ce que je peux dire ou de ce que je peux faire sur l'autre, eh bien, je peux bousiller la vie de l'autre également, au nom du Christ. Donc, important de développer sa conscience, de la faire revenir au travail pour devenir plus sensible aux besoins des autres. Et ça permettra de reconstruire des relations. Donc, des transformations individuelles qui se transforment, elles aussi, un peu répéter, mais qui se traduisent en transformation collective. Comment ? Qu'est-ce que Paul nous dit là ? Eh bien, il nous invite à des relations transformées. Dans le texte, il dit « Avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action ». Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais dans la version là, ça c'est la version de Colombe. Ici, c'était « Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose ». Et dans la version de Colombe, c'est ça. « Mettez votre salut en action ». Donc, bien sûr, tout ce que l'on a vu avant rentre dans « Mettez votre salut en action ». Ce n'est pas que ça, mais ça y rentre. Et pourquoi c'est toute l'Église ? Parce que le mot « votre » qui est utilisé est un pluriel. Dans le grec, c'est pas « je m'adresse à vous », voilà, mais en pensant à chacun individuellement. Là, il pense collectif en plus. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment un travail qui concerne pas uniquement la transformation individuelle, mais la transformation collective. Avec crainte et tremblement. Si on regarde les différents endroits dans les autres textes où c'est utilisé, eh bien, ça nous parle, en fait, de relations mutuelles qui vont être empreintes d'humilité, de respect, de réciprocité dans le respect, et aussi d'obéissance. Et d'obéissance à Christ, certes, mais aussi d'obéissance dans l'Église, selon ce qui a été décidé collectivement. Des relations mutuelles transformées par l'humilité. Et ça, c'est une suite logique de ce qui a été annoncé la semaine dernière, que Alexis nous a présenté, cette exhortation de Paul, justement, à ne pas être dans les vaines gloires et dans la rivalité, mais à considérer humblement les autres comme supérieurs à nous-mêmes, à l'image de Christ qui, lui, était humble, etc. Donc, on est tout à fait dans la logique. Paul continue, finalement, l'explication de la semaine dernière. Pour avoir un témoignage puissant, il faut que l'on continue à l'exemple de Christ à être humble, à se respecter, à s'aimer les uns les autres. Et ça, c'est pas simple. Mais heureusement, Dieu est là. Et d'ailleurs, Paul rajoute, car c'est Dieu qui met en vous la volonté et le faire, ou le vouloir et le faire. On pourrait penser qu'on est des robots dans ce cas-là, puisque c'est Dieu qui va faire. Mais non. Dieu ne veut pas faire sans moi. Il faut que je sois prêt à, il faut que je sois volontaire moi aussi, disposé, disponible pour Dieu. C'est-à-dire que je peux être un frein à se vouloir et se faire, là. Mais mon job, c'est d'être disponible, d'être repentant et dire « Ouais Seigneur, j'ai vraiment du mal, j'ai besoin que tu mettes en voie la volonté et le faire pour précisément devenir quelqu'un qui entretient des relations fraternelles dans l'humilité et le respect. » Et qu'est-ce que tout ça, avec l'aide de Dieu, va permettre ? Eh bien, c'est de passer donc de relations transformées à flambeaux. Parce que Paul nous dit qu'on va devenir, ou on va avoir des comportements purs et irréprochables. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochable et pur. Voilà. Pour être irréprochable et pur. Et il fait contraster ça avec la fin de sa phrase où il parle d'humanité corrompue et perverse. Irréprochable et pur, corrompue et perverse. On doit se démarquer et c'est comme ça que ça va se faire, par la transformation que Christ opère en nous. Et ça va apporter une unité de l'Église dans l'obéissance à Dieu et dans un amour aussi engagé les uns envers les autres. Et ça marque aussi une différence profonde avec les divisions qu'on peut connaître dans la société. Vous pouvez prendre, je peux dire n'importe lequel, mais bien souvent, un club de cartes à jouer, de sport, de pétanque, de tout ce que vous voulez, une association, un parti politique, ça finit tôt ou tard par des conflits et des divisions. Ça m'avait frappé quand j'étais gamin, un club de plongée sous-marine, d'un copain, et ils ont fini par se friter et se séparer. Puis on fait que nager dans l'eau, quoi. Et ils arrivent quand même à se diviser. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un sujet, et à un moment donné, pouf, on n'est pas d'accord sur la gestion de l'argent, ou je sais pas quoi. Et on peut faire pareil. Sauf que on est invité à autre chose, parce que, justement, il y a Christ qui, lui, va faire la différence. Si Christ est pleinement à l'œuvre en nous pour transformer nos vies individuelles et nos vies collectives, nos relations individuelles, nos relations mutuelles, alors il ne va pas se passer ce qui se passe à l'extérieur. Il va se passer ce que Christ fait à l'intérieur. Lui, fait la différence. Et c'est ça qui montre que Christ est vivant. Et tout à l'heure, Caroline nous l'a dit, à ceci, des gens sauront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Le fait qu'on ait des relations entre nous qui ne sont pas naturelles, entre guillemets, qui ne sont pas comme d'habitude, montre qu'il y a quelque chose de nouveau chez nous. Et que ce nouveau, c'est Christ. Ça proclame l'existence et l'œuvre de Christ, que Christ est au travail en nous. Et donc, c'est super important pour le témoignage. Ça rend crédible toutes les paroles et actions d'évangélisation qu'on pourrait faire. Si on est déchiré, on peut faire tous les cultes en 3D qu'on veut, même en 4D. À la fin, on a bien parlé, mais les gens disent « Ouais, mais c'est ça les chrétiens, ça n'intéresse pas. » Et si par contre, il y a une réelle unité, et je pense que les gens qui sont venus l'ont ressenti, alors ça va porter du fruit. « Ah les gars, mais vous dites des choses, mais en plus vous avez l'air de les vivre. » Là, j'ai peut-être quelque chose à écouter. Ça, c'est important. Et c'est ça que Paul nous dit. Si vous faites tout ça, vous serez des flambeaux. Là, la lumière des flambeaux va briller. Très petit court témoignage. Mon frère s'est converti, j'avais 11 ans, il en avait 22. Et bien sûr, il était tout feu, tout flamme. Faut que tu te convertisses, machin et tout. Et moi, je n'avais rien à faire. J'étais quand même curieux, c'est la première fois que j'entendais parler de Dieu de ma vie. Mais j'avais envie qu'il me laisse tranquille aussi vivre ma vie, quoi. Et puis au fil du temps, il m'a laissé vivre ma vie. Quand je posais une question, il ne répondait pas par une question. Il répondait à ma question et c'était tout. Et à un moment donné, j'ai dit, waouh, là, il gagne des points parce qu'il me laisse tranquille dans mon cheminement. Il respecte qui je suis. Il ne me force pas. Mais il a un comportement qui démontre qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a réellement transformé sa vie. Là, il devient crédible. Et on est crédible que si Christ est vraiment opérant en nous. Là, on va briller comme des flambeaux, et pas comme des lance-flammes. Voilà. Donc, pour résumer, pour reconclure, pour redire la conclusion, je dirais ceci. Que des relations transformées entre nous par Christ, c'est une unité renforcée. Pour les églises où elle n'est pas, eh bien, ça leur permettra de la retrouver. Pour celles où il y a déjà de l'unité, ça permettra de la renforcer, de persévérer, de s'améliorer, d'être plus résistant aussi par rapport aux attaques qu'il pourrait y avoir. Donc continuons, persévérons, et ça permettra d'avoir Christ annoncé réellement, de ne pas être des freins à l'annonce du Christ. Amen.